Tout le monde est là. On a 3 minutes d'avance, mais comme Patrick vient pas ce soir, je pense que ça peut. Ça y est, ça tourne. Bien. Alors, en histoire de l'Église, on va poursuivre notre étude du protestantisme de langue française au XIXe siècle. Je rappelle quelques grands points d'abord. Tout d'abord, le fait qu'à partir de 1902, le concordat donc, de Napoléon concerne aussi les protestants. Et les articles organiques font de l'Église réformée une Église d'État divisée en consistoire. La restauration, malgré le retour, le désir de revenir à l'ancien régime, maintient le concordat et rien n'est remis en question d'une manière fondamentale. Sous Louis-Philippe, c'est-à-dire entre 1830 et 1848, même chose, n'est-ce pas? En principe, les choses ne sont pas remises en question. Bon, il y a quelques tracasseries qui se trouvent atténuées par le fait que Louis-Philippe va nommer un ministre protestant qui se nomme Guizot. De ce fait, la situation des protestants, comme on l'a vu, va s'améliorer. En 1848, les choses vont évoluer d'une manière assez sensible. 1848, c'est l'avènement de la Deuxième République. Pour les protestants, la République est quelque chose de plutôt positif. Et les protestants accueillent avec bienveillance l'avènement de la Deuxième République. Un arrêté, d'ailleurs, du 10 mai 1848, proclame que d'abord la liberté de conscience et la libération immédiate de tous ceux qui sont emprisonnés pour des raisons religieuses. Pourquoi pouvait-on être emprisonné pour des raisons religieuses avant 1848? Eh bien, parce qu'on avait tenu des réunions, par exemple, sans une autorisation, d'avoir fait l'autorisation aux autorités compétentes. Des réunions de plus de 20 personnes devaient en effet être obligatoirement déclarées. Parce qu'on avait fait des réunions en dehors des temples et des édifices religieux spécialement prévus à cet effet, etc. Donc, à partir de mai 1848, tous ceux qui sont en prison pour des raisons de ce type-là sont libérés. Il y a donc un comité qui est chargé de proposer des élections, notamment à la présidence de la République. Parmi les candidats à la présidence de la République, outre le poète Lamartine, qui avait présidé le gouvernement provisoire, il y a le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Et le prince Louis-Napoléon Bonaparte entend bien utiliser cette révolution pour revenir au pouvoir, et il a des idées derrière la tête, des idées que le bon peuple ne voit pas venir. Tant et si bien que les élections donc de décembre 1848 vont être un véritable plébiscite en faveur de celui qu'on va appeler le prince président, et les protestants ne sont pas les derniers, n'est-ce pas, à voter en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte est donc massivement élu, et en milieu protestant, par exemple, il recueille 76% des suffrages des protestants. Dans l'Ouest, il y a certains endroits où ça va jusqu'à 94% des protestants qui votent en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte. Les malheureux ne savent pas trop ce qu'ils font en votant pour cet énergumène-là. En effet, quelques années plus tard, en 1851, le prince président fait un coup d'État et il se proclame empereur. Il rétablit l'Empire et abolit la République qui aura été de courte durée. Les protestants sont un petit peu abasourdis, mais dans l'affaire, ils restent neutres, se disant que finalement... on en a vu d'autres, et que depuis la première révolution de 1789, bon, différents régimes se sont succédés et que finalement, les acquis de la révolution de 1789 n'avaient pas été fondamentalement remis en cause. Ce sera en effet ainsi que les choses vont se passer sous le Second Empire, mais avec quand même une nette hostilité de celui qui maintenant n'est plus le prince président, mais le prince tout court, l'empereur, n'est-ce pas ? Une nette hostilité de Louis-Napoléon Bonaparte et du pouvoir en place, par conséquent, aux protestants. Par exemple, en 1852, un an après le coup d'État, les protestants et les juifs se voient interdire par le ministère des cultes l'accès à l'école normale. Cette mesure sera abolie rapidement, mais ça montre quel est le climat, n'est-ce pas ? Puis toutes les réunions, même religieuses, sont interdites sans autorisation préalable. Ce n'est pas une mesure qui vise spécialement les protestants, mais l'empereur a en face de lui une opposition politique non négligeable de gens qui n'ont pas accepté son coup d'État. Le principal de ses adversaires sera Henri de Rochefort, un journaliste à la plume acerbe qui publie clandestinement une petite feuille pamphlétaire très virulente contre Napoléon, qu'il appelle d'ailleurs Badinguet, c'est bien français, Badinguet, qui s'appelle La Lanterne. Cette lanterne dénonce donc les excès du pouvoir, tant et si bien que le pouvoir se fait très autoritaire et la liberté de réunion, la liberté d'association est remise en cause. Donc toute réunion doit être au préalable demandée aux autorités. Il faut une autorisation des autorités pour pouvoir tenir une réunion. Même chose pour le colportage. Le colportage est interdit sous peine d'amende ou même sous peine d'emprisonnement, ce qui est un handicap très grand pour l'expansion du protestantisme qui compte beaucoup sur le colportage et sur les colporteurs depuis les origines d'ailleurs. Et puis, ouvrir un lieu de culte est un véritable parcours du combattant. De nombreuses tracasseries administratives interviennent pour faire en sorte que, finalement, il n'y ait pratiquement pas lieu de culte nouveau qui se crée pendant le Second Empire. Autre mesure qui est prise aussi à l'encontre des protestants, les protestants peuvent être inquiétés, juridiquement parlant, pour avoir manqué de respect au catholicisme. Et un certain nombre de protestants vont se retrouver en prison sous ce chef d'accusation-là. C'est évidemment assez particulier. Si vous voulez, la situation va être très tendue jusqu'en 1860. En 1860, l'Empire va quelque peu se libéraliser. Finalement, Louis-Napoléon va souhaiter évoluer vers une forme un petit peu à l'anglaise, si vous voulez. C'est l'époque où vont se nouer les relations avec l'Angleterre, ce qu'on appelle l'entente cordiale. L'Angleterre va être un petit peu une espèce de modèle, si vous voulez. Tant et si bien que, finalement, d'une manière générale, les institutions de l'Empire vont devenir beaucoup plus libérales. Et en ce qui concerne les protestants, les relations vont se rétablir. Les relations tendues vont un petit peu se détendre. Mais il restera, jusqu'à la chute de l'Empire, une lourde atmosphère de suspicion jusqu'à ce que l'Empire s'écroule en 1870, comme on le sait, au moment de la défaite française face aux Prussiens dans la guerre qui va donc marquer cette période-là. Disons que au moment de la Commune, c'est-à-dire la tentative de révolution qui suit la défaite de 1870, les protestants ne seront pas inquiétés. Les protestants sont plutôt marqués à gauche à cette période déjà, tant et si bien que la Commune ne va pas vraiment porter atteinte au bon fonctionnement du protestantisme. Pendant cette période du Second Empire, le protestantisme vivra quand même, et vivra bien, se développera, pourrait-on dire. C'est ainsi qu'il va profiter des réveils qui ont lieu tant à Genève que dans les pays anglo-saxons. Et c'est pendant cette période que va se créer la Société centrale des évangéliques, qui est le fruit du réveil de Genève en particulier, et qui va entreprendre un travail d'évangélisation souvent clandestin, souvent périlleux à cette période-là, mais qui sera un travail qui finira par porter son fruit. C'est à la même époque qu'arrive un missionnaire anglais, s'appelle Mac Hall. Vous savez que le Second Empire est l'époque aussi où naît un problème social très important. C'est l'époque de l'industrialisation massive de la société, enfin du monde occidental d'une manière générale, et de l'association et de la société française également. C'est la révolution industrielle qui provoque un exode massif des campagnes et par conséquent naissance d'un prolétariat qui est exploité abominablement. Vous savez, c'est Germinal, c'est Émile Zola, c'est tout ça. c'est les enfants qui travaillent au fond des mines dès l'âge de 4 ans, tout en sachant qu'ils ne dépasseront pas l'âge de 10 ans, et de la part de gens, n'est-ce pas, qui les patrons de ces grandes entreprises-là sont des bons catholiques en général, voire parfois même de bons protestants, certains d'entre eux. Et ils vont à la messe tous les dimanches. Ils donneront même éventuellement 4 sous à un mendiant de passage, montrant combien leur cœur large et charitable, mais ils laisseront mourir les enfants au fond de la mine. Ils laisseront crever de faim les ouvriers dans une misère abominable. Et c'est contre finalement cette exploitation sans vergogne du prolétariat que va naître aussi le marxisme. C'est à cette période-là que va naître le marxisme. Et par conséquent, les premiers mouvements sociaux, les grèves, qui sont durement réprimés parce que le droit de grève n'existe pas à cette période-là. Et la condition des ouvriers est une condition absolument terrible, n'est-ce pas? Un certain nombre d'hommes de Dieu prennent conscience de cette situation-là. Et alors que Marx tente de réagir par des moyens violents, révolutionnaires et anti-évangéliques, un certain nombre d'hommes de Dieu, eux, vont tenter de réagir contre cette misère, mais d'une manière beaucoup plus évangélique. Et c'est ainsi que un évangéliste anglais du nom de Mac Hall, c'est pas un anglais, j'ai dit une énormité, c'est un écossais. Il faut surtout jamais dire à un écossais qu'il est anglais. Enfin, un britannique, disons. Mac Hall, donc, arrive en France, dans les quartiers, comment dirais-je, populaires des grandes villes. Et là, il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile avec, comment dirais-je, des œuvres sociales pour aider justement les plus défavorisés. Il va entreprendre en particulier un effort de lutte contre l'alcoolisme. Beaucoup, en effet, de ces ouvriers désespérés noient leur chagrin dans l'alcool, c'est le cas de le dire. Alors, il y a au ravage de la situation sociale elle-même, s'ajoutent les ravages de l'alcool, de la délinquance, de l'immoralité. L'immoralité est grande chez les ouvriers à cette période-là aussi, n'est-ce pas? Tant et si bien que Mac Hall décide de s'en prendre à ces fléaux-là. Il crée des ligues d'abstinence pour encourager les buveurs à revenir de leur mauvaise voie. Il encourage les nouveaux convertis à vivre une vie morale, à retourner vers leurs femmes, vers leurs familles qu'ils ont souvent délaissées, à ne plus se battre, à ne plus être brutaux, etc., etc. Et puis aussi, donc, éventuellement, Mac Hall entend aussi plaider la cause des ouvriers vis-à-vis des patrons, les choses n'étant pas incompatibles, tout en le faisant évidemment d'une manière qui soit non violente, à l'inverse de ce que faisait donc Marx. Marx et les révolutionnaires de cette période-là. L'œuvre de la mission Mac Hall, après sa mort, prendra un autre nom, s'appellera Mission Populaire. Elle existe encore aujourd'hui, c'est une des composantes de la Fédération protestante de France. Malheureusement, ce qui en était la force, c'est-à-dire une annonce très très ferme et très très nette du message évangélique, c'est-à-dire de la conversion et de la repentance avec la pratique d'œuvres de repentance, n'existe plus. Et finalement, la Miss Pop, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, la Mission Populaire, l'ancienne mission Mac Hall, n'est plus qu'une espèce d'officine sociopolitique où on fait plus de l'agitation marxiste que de l'annonce de l'évangile d'une manière que Mac Hall faisait, que finalement on faisait à cette période-là. C'est aussi la période où un certain nombre de grands noms du protestantisme français vont se manifester. Parmi ceux-là, Adolphe Monod, 1802-1856. Qui est un pasteur au départ libéral, inconverti, et qui, se trouvant à Naples, va y entendre l'Évangile, et bien qu'étant déjà pasteur, se convertit. Il deviendra ensuite un chef de file de l'aile évangélique du protestantisme français, un des grands hommes de Dieu de l'époque. De Naples, il revient à Lyon, où il fonde une église libre, d'ailleurs, qui va être le point de départ du mouvement de ce qu'on appelle les églises libres, qui existent encore de nos jours. En effet, il va être excommunié pour avoir refusé de donner la communion à des inconvertis. Finalement, il sera réintégré dans l'église officielle. Adolphe Monod sera non seulement pasteur à Lyon, mais également professeur à la faculté de théologie de Montauban. Puis de Lyon, il deviendra pasteur à l'oratoire du Louvre à Paris. Adolphe Monod est un homme qui non seulement est un fidèle serviteur de Dieu, mais c'est aussi un orateur hors pair, et il attire des foules, notamment pendant son ministère à Paris. Il mourra très jeune, frappé par un cancer, et pendant sa maladie, n'est-ce pas, il réunira dans sa chambre, comme on le sait, des amis, des paroissiens auxquels il livrera en quelque sorte ses ultimes méditations qui ont été recueillies après sa mort dans un livre que vous pourrez trouver dans la bibliothèque, je pense, qui s'appelle « Les adieux ». C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Parmi les grands hommes de Dieu de cette période-là, il faut citer aussi Ruben Selens, dont on a parlé la dernière fois, 1855-1942, qui est né à Saint-Jean-du-Gard, et qui fait ses débuts dans la mission McHall, justement. Ensuite, il deviendra donc un des apôtres des églises baptistes, dans la foulée de Jean-Baptiste Crétin, et il fondera notamment la première église baptiste de Paris. On aura l'occasion d'y revenir. Citons également Auguste Ducapet, 1836-1906, qui sera pasteur à l'oratoire après Adolphe Monod. Puis également un autre Monod, Théodore Monod, qui est un neveu du précédent, qui lui est touché par le réveil d'Oxford, dont nous aurons l'occasion de parler, qui vont donner naissance aux assemblées de frères, et qui, tout en restant dans l'église officielle, y prêchera très fidèlement l'évangile. Citons également Charles Babu, 1836-1916, qui sera pasteur à Nîmes, ce sont les pasteurs évangéliques. Parmi les libéraux, citons Samuel Vincent, pasteur à Nîmes entre 1797 et 1887. Le professeur Ménégoz, 1836-1921, qui, alors lui, croyait que la foi, il fallait séparer la foi des croyances. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas, cette idée. Vous savez, on aura l'occasion d'y revenir sur le libéralisme qui va ravager le protestantisme au XIXe siècle. Ça avait commencé déjà au siècle précédent, avec Rousseau, avec tous ces mouvements-là dont nous avons déjà parlé, en Allemagne en particulier. Et finalement, en France, on va avoir les mêmes problèmes, surtout au XIXe siècle. C'est l'époque du rationalisme. Il faut donc tout mesurer par la raison étant le critère dernier en toute chose. Et lorsque dans la Bible, par exemple, il y a des affirmations qui sont contraires à la raison, il faut les rejeter. Par exemple, les miracles de Jésus sont contraires à la raison parce que on n'a jamais vu de miracle se produire de nos jours. Vous voyez que c'est un peu court comme explication, mais enfin, ça c'était le rationalisme protestant. Donc, les miracles de l'Évangile sont des mythes. Jésus n'est pas ressuscité parce que c'est contraire à la raison. Et parce qu'on n'a jamais vu un mort ressuscité. Jésus n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de Joseph, parce que l'histoire de la naissance virginale, c'est quelque chose qui est contraire à la raison. Alors, on peut se demander, après ça, qu'est-ce qui reste de la foi? Eh bien, justement, Ménégoz lui dit, il faut faire différence entre la croyance et la foi. Croire dans les miracles, croire dans la résurrection, croire dans la naissance virginale de Jésus, ça, ce sont des croyances. Et finalement, on peut s'affranchir des croyances si elles sont contraires à la raison, et on peut malgré tout garder la foi. Il y a une espèce de récupération de ces gens-là, dans une espèce de foi éthérée qui ne repose sur aucun fait objectif, en quelque sorte. N'est-ce pas ? Mais je crois quand même, si vous voulez, que Jésus est un être extraordinaire. D'une certaine manière, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu dans la foi, pas dans les faits, mais dans la foi. Il est ressuscité, mais dans la foi. Il n'est pas ressuscité dans les faits, mais il est ressuscité dans la foi. Hein? Enfin, et ainsi de suite. Alors, si vous voulez, ça vous donne quelque chose d'assez curieux. C'est que vous allez avoir des gens qui vont avoir finalement une non-foi, parce que c'est ce qu'il faut dire, par rapport, si vous voulez, à l'objectivité des choses bibliques, et puis qui vont prêcher l'évangile comme si c'était des évangéliques, qui vont prier, qui vont avoir une vie de piété, finalement comme si ils croyaient exactement comme croirait un évangélique. Voyez-vous? Et ça, c'est le paradoxe du libéralisme du 19e siècle. Vous avez des hommes de foi, vous avez des hommes de piété, mais qui n'ont plus la foi dans la Bible, en fin de compte. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Seulement, cet exercice d'équilibrisme, évidemment, ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer une génération. Et puis, au 20e siècle, les libéraux du 20e siècle, eux, seront des gens qui auront perdu la foi complètement et qui n'auront plus du tout de vie de piété, qui n'auront plus de vie de prière, qui n'auront plus de prédication saine, si j'ose dire. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on en est là. Alors, voyez-vous, je fais une petite digression ici. Vous savez, ces fameuses émissions qui sont passées à Arte, là, cet an dernier, qui finalement reprennent ces vieilles tartes à la crème qui datent du siècle dernier pour beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, elles partent. D'ailleurs, ils le disent, ça part de Renan. Renan, c'est la même époque. Renan, c'était un catholique, un ancien séminariste. Mais finalement, il fait la même démarche. Il a l'honnêteté, faut lui rendre ce témoignage, de quitter l'Église catholique. Tandis que ces gens-là restent dans l'Église. Hein, des espèces de parasites, comme dit la deuxième épître de Pierre, des gens qui sont au milieu de vous, mais qui sont des faux docteurs, qui sont des faux prophètes, etc. Et finalement, des adversaires de la foi, comme les gens de la télévision qui ont fait Arte, n'ont qu'à puiser dans les affirmations des hommes d'Église eux-mêmes pour trouver de quoi nourrir, n'est-ce pas, les émissions qui ont duré 6 heures. Je crois que c'est ça, 6 heures, hein? 6 heures d'émission. Hein? Bon, ce faisant, évidemment, ils n'ont rien inventé de nouveau. On trouve ça déjà au siècle dernier. Et comme on va le montrer dans le prochain numéro d'expérience, bon, il y a belle lurette que ça a été réfuté par l'archéologie, mais si vous voulez, le public a l'impression, parce que maintenant c'est vu à la télé, c'est toujours, vous avez ça sur les boîtes de macaroni, vu à la télé. Bon, bah, à ce moment-là, on a tout dit. Bah, jusque maintenant, si vous voulez, ces théories complètement dépassées, n'est-ce pas? Était le fait d'un petit cénacle de spécialistes comme ça. Mais grâce maintenant à l'intérêt que ces deux hommes de télé ont porté à ce truc-là, maintenant c'est la France entière qui est au courant de ces choses-là. En fait, encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a bien longtemps que ces choses-là ont été dites. Hein. Donc ça, c'était justement le fait d'un homme comme ce professeur Ménégoz dont nous parlons justement. Citons également un de ses collègues qui s'appelle Sabatier, 1839-1901. Et puis aussi, donc, d'un autre Monod, les Monod sont une grande famille, Winifred Monod, 1867-1943. Voilà donc, si vous voulez, les grands noms de cette période-là. Et donc, nous sommes ici maintenant à ce grand tournant qu'est la Révolution de 1848. Revenons un petit peu en arrière, si vous voulez, à cette période-là, au moment où l'Église a l'impression de retrouver un espace de liberté qu'elle n'avait pas, finalement, on convoque pour la première fois depuis la Révolution française, depuis la Restauration, très exactement, enfin depuis le Concordat, un synode. Un synode dans le but de réformer l'Église et de résoudre ces questions doctrinales, justement, entre libéraux et orthodoxes. Et dans cette assemblée de 1848, on l'appelle pas synode parce que logiquement, il faut encore demander une autorisation à l'État. On l'appelle tout simplement assemblée. Elle est finalement par rapport au concordat, elle est illégale cette assemblée. Mais vu les temps nouveaux, l'État ferme les yeux. Elle se tient avec une tolérance tacite en quelque sorte du pouvoir. Et c'est dans cette assemblée que Frédéric Monod soulève la question doctrinale. N'est-ce pas? Finalement, son point de vue n'est pas retenu. On ne veut pas imposer l'orthodoxie dans l'Église réformée française, tant et si bien qu'une nouvelle Église se crée, l'Église libre. L'Église libre, elle est libre en quel sens? Dans ce sens qu'elle est indépendante de l'État. Et c'est une Église qui n'est plus concordataire, qui n'est plus. Donc, soumise au diktat de l'État, mais en même temps qui n'est plus non plus soutenue par l'État. Ça veut dire que c'est une église qui doit subvenir elle-même à ses propres besoins. Les pasteurs ne sont plus fonctionnaires d'État et ne sont plus payés par l'État. C'est dans ce sens-là qu'elle est église libre. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à cette période-là. C'est en France, en tout cas, la première fois qu'une église de ce type apparaît. Et elle restera ainsi indépendante de l'État jusqu'en 1905, où les autres églises deviendront indépendantes de l'État, volens nolens, par force, parce qu'en 1905 sera votée justement la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et finalement, les églises qui n'avaient pas voulu suivre Monod en 1848, eh bien, seront obligées de le faire en 1905. Et finalement, si vous voulez, en 1905, l'existence d'une église libre ne se justifiait plus. Mais finalement, les églises s'étaient développées indépendamment, et jusqu'à aujourd'hui, l'église libre existe. Elle existe, bien que cette expression église libre ne signifie plus grand-chose. Le mot libre, ou libriste, comme on les appelle aujourd'hui, on appelle les gens qui suivent cette église des libristes, libre, le mot libre est une, comment dirais-je, une expression qui s'inscrit dans un contexte historique qui est complètement dépassé maintenant, qui était justement celui des églises concordataires. L'église libre étant une église qui refusait le concordat. Bien, il faudra attendre 1872, c'est-à-dire le début de la Troisième République, pour que le premier synode officiel puisse avoir lieu. Donc, voyez-vous, pendant près d'un siècle, enfin trois quarts de siècle en tout cas, depuis 1802 jusqu'en 1872, le protestantisme français aura vécu sans synode, sans assemblée officielle. Évidemment, ça n'a pas été idéal non plus pour le développement du protestantisme français. Et ce n'est finalement qu'à l'avènement de la Troisième République, après la tourmente de la Commune en 1871, que le protestantisme va connaître une vraie liberté, et on pourrait dire son âge d'or. L'âge d'or du protestantisme commence à l'avènement de la Troisième République. Et la Troisième République va être un temps où le protestantisme va se sentir des ailes. Il y a une espèce d'osmose qui se fait avec le pouvoir politique. Les protestants ont toujours été républicains, parce que c'est la République qui leur a donné la liberté. Et par conséquent, ils appuient à fond le nouveau pouvoir qui est mis en place et qui est bien fragile en 1872. En fait, il est noyauté par des royalistes qui n'attendent qu'un moment pour rétablir la monarchie. Heureusement qu'ils sont divisés entre eux, entre orléanistes et légitimistes, c'est-à-dire la branche officielle, si vous voulez, qui descend de Louis XVIII, Charles X, et puis l'autre branche, d'où descendait Louis-Philippe. Finalement, il y a conflit entre ces deux branches, et ça fait le jeu des républicains, finalement. Et comme la République, les véritables républicains sont en grande minorité, au début de la Troisième République, tous les apports qui viennent les renforcer sont les bienvenus. Et les républicains trouvent des appuis dans deux domaines, auprès de deux minorités, les protestants d'une part, les juifs d'autre part. D'où justement l'accusation que l'on va retrouver dans la presse catholique de droite pendant toute la durée de la Troisième République, que la République, en fin de compte, est une conspiration anticatholique qui repose sur une triple alliance, celle des protestants, des juifs et des francs-maçons. Et vous allez retrouver ça au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus sera un déchaînement contre les juifs, mais aussi accessoirement contre les protestants. D'ailleurs, les protestants ne s'y tromperont pas, et ils prendront à fond le parti de Dreyfus dans la tourmente, justement. N'est-ce pas? Et on va assister à, donc ici, un phénomène tout à fait intéressant pendant la Troisième République. C'est que non seulement les protestants vont appuyer à fond la République, mais même ils vont y participer. Il y aura des ministres qui seront des protestants, une très grande proportion par rapport au petit nombre de protestants qu'il y a en France. Le corps préfectoral, les hauts fonctionnaires vont effectivement être noyautés par les protestants et les juifs parce que, évidemment, ces gens-là étant des gens loyaux, et on sait bien que ces gens-là sont d'authentiques républicains, eh bien, on va l'ouvrir toute grande, le pouvoir leur ouvre toute grande les portes, justement, de ces administrations, des officiers de l'armée aussi, beaucoup vont être protestants, même juifs, la preuve en est Dreyfus, justement, n'est-ce pas ? Et puis, il va y avoir aussi, donc, une certaine influence, si vous voulez, du protestantisme qui va passer. Et finalement, le protestantisme, pendant la Troisième République, en France, s'imagine qu'il va pouvoir reprendre sa marque, son élan conquérant, en quelque sorte. Et finalement, l'apologétique, si vous lisez, par exemple, les traités qui sont distribués pour le grand public, les traités protestants qui sont distribués par les colporteurs, par exemple, de cette période-là, finalement, c'est l'époque où il y a une vague aussi anticléricale très grande dans la société française. Hein. Les gens de gauche sont anticléricaux, anticatholiques, et il y a un affrontement très dur pendant la Troisième République entre eux, justement, la gauche, disons, républicaine, socialisante, athée, hein, et puis finalement les protestants et les juifs qui sont là comme des forces d'appoint, et puis la droite qui est essentiellement catholique. Et donc l'apologétique protestante est celle-ci, d'abord que le protestantisme s'inscrit à fond dans la tradition républicaine, la démocratie, le protestantisme est démocratique dans son essence, dans son fonctionnement, etc. Donc il se retrouve vraiment dans les institutions de la République. Et puis finalement que, c'est vrai, le peuple français, pendant des siècles, a été trompé par l'Église catholique, représentée par la droite, royaliste et anti-républicaine, et que finalement, le protestantisme aurait dû être la religion des Français dès le XVIe siècle, et que s'il n'y avait pas eu justement réaction des forces catholiques à cette période-là, eh bien la France serait devenue protestante, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Enfin bon, avec des si, on ne sait jamais exactement. Et que maintenant, n'est-ce pas, les travers du catholicisme apparaissent nettement aux yeux de tous les Français. Les méfaits du catholicisme maintenant sont tels qu'une majorité de Français maintenant est anti-catholique, et que par conséquent, maintenant, ce qui ne s'est pas produit au XVIe siècle peut se produire maintenant, à savoir que le protestantisme maintenant est appelé à devenir la religion de la majorité des Français, parce que le protestantisme est une religion de tolérance, parce que le protestantisme est une religion démocratique, parce que le protestantisme est la religion des droits de l'homme, parce que le protestantisme est dans la tradition républicaine, et que la France républicaine, eh bien maintenant, doit aller jusqu'au bout de son évolution ou de sa révolution et devenir protestante. Et on y croit. Dans les milieux protestants, on croit effectivement que maintenant, on peut reconquérir la France pour le protestantisme. Ça nous fait sourire, nous, un siècle après. Mais c'était ce qu'on pensait à l'époque. Et ça va donner, si vous voulez, au protestantisme français, un élan d'évangélisation, un élan de conquête, même de la part d'un certain protestantisme libéral, qui, malgré tout, est pieux, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui est donc automatiquement évangélisateur, si j'ose dire. Hein? Qui finalement est cassé aujourd'hui. Le ressort est cassé parce que finalement, après la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que la France ne redeviendrait pas protestante. Et finalement, on a cru à une protestantisation de la France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, bien, on a compris que c'était inutile d'y penser. Et ça a cassé, si vous voulez, le ressort d'expansion du protestantisme français, même si il reste dans le protestantisme français une nostalgie, si vous voulez, de cette démarche qui était celle, justement, des protestants de la fin du 19e siècle. Et, par exemple, un homme comme Jean Bobereau prétendra, par exemple, que, finalement, le protestantisme a réussi en France parce que le protestantisme a réussi à faire passer les idées qui étaient les siennes, les idées qui lui étaient chères, la démocratie, les droits de l'homme, enfin, tous les grands idéaux du protestantisme, finalement, sont adoptés aujourd'hui par la société française. Mais que la foi proprement dite, la Bible, finalement, n'est pas passée. Enfin, finalement, on se console comme on peut. Hein. Il y a une espèce de manière de se consoler en disant, ben, finalement, c'était une des thèses de Jean Bobreau il y a une vingtaine d'années. Je pense qu'il aurait nuancé maintenant aujourd'hui si on l'interrogeait là-dessus. Mais enfin, il y a une vingtaine d'années, sa thèse était celle-ci. Le protestantisme peut disparaître en France parce que la France est devenue protestante. Non pas de religion, mais de mentalité. La mentalité protestante a fini par imprégner la France. Donc, finalement, le protestantisme a rempli son rôle et maintenant il peut disparaître. C'est une manière de voir, évidemment, que je ne partage pas, vous le comprenez bien. Encore une fois, je pense que Jean Bobreau nuancerait ce propos. Hein. Mais, c'est sous-jacent. Chez par exemple, des gens comme Jacques Stewart ou d'autres, il y a un petit peu cette idée sous-jacente, hein, que finalement, le rôle du protestantisme, eh bien, c'est de faire passer un certain nombre d'idées dans la société française. Et par exemple, les instances de la Fédération protestante nous encouragent constamment à être un petit peu cette espèce de levain dans la pâte française, de militer, par exemple, pour l'accueil des étrangers, contre le racisme et contre ces choses-là, parce que finalement, c'est la vocation du protestantisme, en France, en tout cas, n'est-ce pas ? Bon, voyez-vous, l'évolution des mentalités dans ce domaine-là, c'est intéressant d'en faire un petit peu le tour, quoi. Donc ici, 1872, premier synode, nous l'avons vu, et ce synode adopte une déclaration de foi orthodoxe. C'est la première déclaration de foi depuis la déclaration de La Rochelle. Charles Bois en est l'instigateur. Voici par exemple le préambule de cette déclaration de foi. Au moment où elle reprend la suite de ses synodes interrompus depuis tant d'années, l'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de rendre grâce à Dieu et de témoigner son amour à Jésus-Christ, son divin chef, qui l'a soutenu et consolé durant le cours de ses épreuves. Elle déclare par l'organe de ses représentants qu'elle reste fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle a été fondée. Avec ses pères et ses martyrs, dans la confession de foi de La Rochelle, avec toutes les églises de la Réformation dans leurs divers symboles, elle proclame l'autorité souveraine des Saintes Écritures en matière de foi et le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle conserve donc et elle maintient à la base de son enseignement, de son culte et de sa discipline les grands faits chrétiens représentés dans ses sacrements, célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés dans ses liturgies, notamment dans la confession des péchés, dans le symbole des apôtres et dans la liturgie de la Sainte-Cène. Voilà le ton donc de ce synode qui, encore une fois, se veut une réaction contre le libéralisme. Là, il faut y voir aussi l'influence des réveils, l'influence de ces hommes de Dieu comme Monod, dont nous parlions tout à l'heure, d'autres, de Rubens Sélens, de Théodore Monod, de Babu, etc. Et finalement, là, il y a un coup d'arrêt sérieux qui est mis au progrès du libéralisme. Mais les libéraux n'acceptent pas cette déclaration de foi et ils font appel à l'État. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait négatif. C'est là qu'on voit les méfaits, justement, de l'Église concordataire. Et finalement, l'État enjoint à l'Église réformée de maintenir les libéraux en son sein. Et donc de maintenir le ver dans le fruit. Et comme il y a des accords entre libéraux et orthodoxes, le pouvoir interdit de nouveaux synodes. Voilà. Hein. Alors, on décide de remplacer les synodes par des assemblées générales. Et finalement, il va y avoir aussi toute une espèce de période de cafouillage pendant toute cette période-là. Et finalement, pendant la période de l'Empire, comme nous avons vu tout à l'heure, rien de sérieux n'avait pu avoir lieu. Et finalement, pendant la période de la Troisième République, il y aura aussi une ingérence de l'État dans les affaires de l'Église. Parce qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical. Il faudra attendre 1905 pour que le cordon ombilical soit coupé. Outre les églises libres, d'autres églises aussi vont se développer en marge de l'église officielle, donc en marge des ingérences de l'État. Les églises baptistes, dont nous avons parlé la dernière fois, et puis aussi des églises évangéliques vont se développer dans l'est de la France, en particulier en Alsace-Lorraine. Ce sera par exemple le cas des églises mennonites. Les églises mennonites sont essentiellement liées à l'immigration de gens venus de la Suisse. Les Mennonites sont les descendants, donc, nous l'avons vu, des anabaptistes du XVIe siècle, qui ont été terriblement persécutés, et qui sont restés persécutés, y compris dans les États protestants, comme la Suisse. On a toujours tendance à voir la Suisse comme un État libéral, mais la Suisse est un État terriblement coercitif, depuis toujours, contrairement à ce qu'on croit. Les Mennonites, donc, seront constamment persécutés en Suisse, tant et si bien que lorsqu'ils sont persécutés, ils se réfugient en France. Et puis quand ils sont persécutés en France, ils retournent en Suisse. Alors les Mennonites habitent toujours à cheval sur la frontière. La frontière donc entre la Suisse et puis la France. C'est pourquoi le fief Mennonite en France, c'est le pays de Montbéliard, qui est donc proche de la Suisse. Et donc dans le dernier quart du 19e siècle, dernier tiers disons même, la Suisse redevient persécutrice à l'endroit des Mennonites. Qu'est-ce qu'on reproche aux Mennonites ? Alors que finalement d'autres églises sont tolérées en Suisse, on leur reproche essentiellement deux choses. Premièrement, leur pacifisme. Les Mennonites ne veulent absolument pas porter les armes. Or, la Suisse est un État terriblement militariste. Jusqu'à aujourd'hui, la Suisse a une des armées les plus puissantes d'Europe. Et tous les citoyens sont tenus de porter les armes, de faire un service militaire, puis des périodes de réserve tous les ans. Ils sont appelés à faire des exercices de tir plusieurs fois par an. Enfin, il y a toute une organisation militaire très 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 stricte et très très très, comment dirais-je, structurée. Les Mennonites sont objecteurs de conscience. Et pour cette raison-là, ils sont persécutés. Ils sont persécutés en Suisse. Deuxième reproche qui est fait aux Mennonites, c'est que précisément, ils sont aussi des gens qui ne veulent pas, comment dirais-je, non seulement servir dans la fonction publique, mais également rendre, si vous voulez, à l'État un certain nombre d'hommages. Par exemple, ils ne saluent pas le drapeau, ils ne prêtent pas serment dans les tribunaux, un certain nombre Il y a une certaine désobéissance civique, si vous voulez, chez les Mennonites, qui fait partie de leur vision des choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux vont s'enfuir aux États-Unis ou au Canada, où ils vont fonder les communautés Amish. Les communautés Amish vont être des communautés qui vont garder justement l'essence des Mennonites, des premiers Mennonites. À cette période-là, les Mennonites en Suisse et en France vivent encore aussi dans des sortes de communautés moins structurées que celles des Amish des États-Unis et d'Amérique du Sud, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des communautés mennonites en Amérique du Sud, Argentine, etc. Mais ils vivent encore en communauté. Et finalement, au XIXe siècle, qui est l'époque, si vous voulez, aussi du militarisme, nous sommes ici au moment du militarisme prussien, et la Suisse éprouve le besoin de défendre sa neutralité en justement renforçant ses forces armées. Donc on veut contraindre les Mennonites à porter les armes, donc ils désertent la Suisse et ils passent en France. Ils passent en France, et c'est ainsi que se crée dans la région de Montbéliard et dans toute la région d'Alsace-Lorraine un certain nombre de communautés Mennonites. Au milieu du siècle va avoir lieu un réveil en Angleterre dont nous aurons l'occasion de parler, qui est le réveil de Plymouth, qui va donner naissance aux frères de Plymouth. Et le réveil de Plymouth va se transporter un peu dans toute l'Europe. Dans les pays francophones, il aura pour apôtre principal John Nelson Darby, qui va venir à Genève en particulier, y prêcher donc sa doctrine, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. La doctrine de Darby est une doctrine qui se veut très très biblique, très très fondée sur l'Écriture, mais en fin de compte qui est plus une doctrine fondée sur l'interprétation qu'en a Darby que sur l'Écriture elle-même. ça va provoquer des drames, on aura l'occasion d'y revenir en Angleterre. Mais Darby va venir, si vous voulez, dans la mouvance du réveil de Genève du début du siècle, et il va redonner vie à ce réveil. Et à la suite de Darby, du réveil de Darby, vont naître en Suisse, puis ensuite en France, des communautés qu'on appelle des communautés de frères. Le mouvement de frères lui-même, le mouvement de Plymouth, se divise à cause de Darby. Et vont se créer à la fois les frères larges, ce qu'on appelle les frères larges, qui sont anti-darbistes, et puis les frères étroits, qui sont darbistes, qu'on appellera également darbistes, les assemblées darbistes, n'est-ce pas? Ça existe encore aujourd'hui, et c'est une des composantes importantes du paysage évangélique français. Puis, à la fin du siècle également, et il y aura un autre mouvement venu d'Angleterre aussi qui va venir en France, c'est l'Armée du Salut, fondée par William Booth, dans la mouvance du réveil méthodiste, et qui, comme Mac Hall, va avoir un souci particulier pour le monde ouvrier. Et après avoir travaillé, nous aurons l'occasion d'y revenir, en Angleterre, parmi les ouvriers, les classes défavorisées de l'Angleterre, William Booth va envoyer des missionnaires en France, dont sa propre fille d'ailleurs, et l'Armée du Salut va commencer donc une activité d'évangélisation et d'action sociale au milieu des ouvriers français, un petit peu comme l'a fait justement la mission Mac Hall. C'est l'époque, si vous voulez, où justement les protestants ne sont plus inquiétés. Par conséquent, toutes ces nouvelles, en quelque sorte, formes de protestantisme, jusque-là inconnues en France, peuvent s'instaurer sur le territoire français sans de grandes difficultés de la part des autorités, en tout cas. Ce qui n'a pas été le cas pour les baptistes, qui, eux, sont venus beaucoup plus tôt, comme on l'a vu la dernière fois. Et de ce fait, nous avons maintenant, à la fin du siècle, le visage du protestantisme français qui change. Au début du siècle, le protestantisme français était quasi exclusivement composé de l'Église réformée. Quand on parlait de protestantisme en France, on pensait réformé. C'était pratiquement synonyme. Il n'y avait protestantisme français dans son ensemble était entièrement réformé. À partir du début du siècle, les baptistes s'installent dans le nord de la France. On a vu ça la dernière fois. Puis ensuite, donc, les différentes composantes qui viennent essentiellement du monde anglo-saxon ou de Genève, n'est-ce pas, dont nous venons juste de parler ici. Et de ce fait, nous allons avoir à la fin du siècle un protestantisme qui va être beaucoup plus divers. Et notamment qui va être divers dans une composante qui va être très nettement évangélique, très nettement orthodoxe. Donc qui va apporter de l'eau au moulin, justement, de la tendance évangélique qui se trouve à l'intérieur de l'Église réformée et qui est opposée au libéralisme. Et alors, va naître ici une situation un peu paradoxale qui va marquer essentiellement le XXe siècle, à savoir que le protestantisme réformé, et quand je dis réformé, je dis non seulement l'Église réformée officielle, mais également l'Église libre. Parce que l'Église libre est finalement une Église réformée libre. Mais sa structure et sa théologie sont réformées. Du moins, à cette époque-là. Aujourd'hui, ça évolue. Mais à cette époque-là, c'était ainsi. N'est-ce pas? Et de ce fait, le protestantisme réformé va avoir beaucoup de mal à reconnaître dans ces églises, ces autres formes du protestantisme, des frères. Hein? Et finalement, cette espèce de sentiment d'être les seuls protestants véritables en France est quelque chose qui reste dans le protestantisme, dans l'Église réformée jusqu'à nos jours. Même à la limite, à l'endroit des luthériens, n'est-ce pas? Et finalement, ça rend, si vous voulez, le protestantisme, la fédération protestante, pas toujours facile à vivre. Essentiellement, justement, parce qu'il y a ce désir hégémonique de l'Église réformée par rapport aux autres formes de protestantisme. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple. où on est habitué depuis beaucoup plus longtemps à avoir des composantes diverses, n'est-ce pas, et finalement où la coexistence est beaucoup plus facile. En Amérique, encore pire, n'est-ce pas. En Amérique, dès le départ, il y a cette diversité. Tant et si bien que ça pose beaucoup moins de problèmes que dans nos pays qui sont marqués à la fois par le catholicisme et finalement une idée assez catholique que l'Église réformée a d'elle-même. Ça veut dire qu'elle est l'Église, comme l'Église catholique croit être l'Église. Eh bien, l'Église réformée a un peu tendance à croire qu'elle est aussi à elle seule l'Église. Alors, dans cette période également, les relations à l'intérieur de l'Église réformée elle-même entre orthodoxes et libéraux se dégradent. Et il y a des tendances ici qui naissent, qui vont s'affronter pendant la fin de ce siècle et pendant le siècle suivant, notamment avec cette idée que sous l'influence justement des mouvements venus d'outre-Atlantique, des réveils, c'est-à-dire du méthodisme, du baptisme, du darbisme, de l'armée du salut, etc., les libéraux vont davantage insister sur une piété. Oui, sur la piété, sur une piété qui soit assez sentimentale. Et par exemple, les orthodoxes, comme on les appelle à cette période-là, on les appelle pas évangéliques, on les appelle orthodoxes. Orthodoxes contre libéraux, n'est-ce pas ? Les orthodoxes chantent beaucoup de chants des réveils qui sont traduits de l'anglais. Et par exemple, notre recueil des ailes de la foi est essentiellement un recueil qui naît pendant cette période de la fin du XIXe siècle, et qui comprend essentiellement des chants traduits de l'anglais. Par exemple, quand vous allez en Angleterre, dans les églises évangéliques anglaises, vous n'êtes pas du tout dépaysé par les chants, c'est les chants qu'on chante ici, si ce n'est qu'ils sont chantés en anglais. On retrouve exactement les chants qu'on trouve dans notre recueil des ailes de la foi. Et le recueil des ailes de la foi est un recueil de chants qui sont nés dans les milieux orthodoxes, au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois dans l'Église réformée et dans les églises en dehors de l'Église réformée, mais de type orthodoxe évangélique, n'est-ce pas, qui sont nés en France à la fin du XIXe siècle. Il y a aussi d'autres problèmes qui divisent les orthodoxes et les libéraux, qui sont les nouvelles traductions de la Bible. Les nouvelles traductions de la Bible, il en est à cette période-là. En effet, dans la liberté totale retrouvée par les protestants, il y a un gros effort de diffusion de littérature, donc de traduction biblique. Une filiale de la Société biblique de Londres est créée en France, qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'Alliance biblique française, pour justement la traduction, l'impression et la diffusion de la Bible. Les vieilles traductions de la Bible qui dataient d'Olivetan ou autres, n'est-ce pas, sont revues et d'autres naissent, n'est-ce pas, notamment une traduction qu'on appellera synodale, parce qu'elle est le fait justement d'une équipe de traducteurs, ce qui est évident aujourd'hui, ce qui était une innovation à cette période-là. À cette période-là, c'était un homme qui faisait une traduction. Plus, alors, on a la traduction libérale, qui est la traduction de Louis II. Ce qui d'ailleurs est assez paradoxal, c'est que dans beaucoup d'églises évangéliques à la fin de notre siècle, jusqu'à la Colombe, n'est-ce pas, eh bien, la version de Louis II, qui était le cheval de bataille des libéraux au XIXe siècle, est devenue la traduction presque inspirée, mot à mot, si vous voulez, pour un certain nombre d'évangéliques aujourd'hui, n'est-ce pas. La traduction synodale, bon, est aussi une traduction va avoir des fortunes diverses, et tellement diverses finalement qu'elle tombe en désuétude parce qu'elle va être trop souvent révisée. Et que finalement, il faut changer de Bible trop souvent pour être au bout du jour. Et finalement, la traduction synodale, qui était au départ plus la traduction des évangéliques, va être abandonnée au profit de la Louis II, parce que la Louis II, eh bien, elle ne change pas, tout simplement. Et finalement, c'est celle-là qui... Il va y avoir ce tour de passe-passe assez étonnant, n'est-ce pas, où la seconde va devenir la Bible des évangéliques, des orthodoxes, disons, à cette époque-là, comme on le dit. Bon, problème de liturgie aussi. Et finalement, si vous voulez, les libéraux sont des gens qui croient plus en l'homme qu'en Dieu. Ils croient plus en la raison, ils croient plus en la République, ils croient plus dans les droits de l'homme que finalement dans la Bible. Hein. C'est une religion humaniste, finalement, qu'ils proclament, et ils estiment que l'orthodoxie est quelque chose de dépassé, parce que justement l'orthodoxie est trop christocentrique en quelque sorte. Ils pensent qu'ils ont l'avenir pour eux, ils pensent qu'ils sont la religion de demain et que finalement, pour que le français se reconnaisse dans le protestantisme, il faut que ce soit un protestantisme libéral. Et ça, c'est un petit peu ce que pensent des gens comme Stewart, comme Bob Rowe, dont nous parlions tout à l'heure encore aujourd'hui. Si tant est que le christianisme, le protestantisme pourrait être un avenir, il ne peut être qu'un christianisme libéral, humaniste, donc marqué par, ouvert, si vous voulez, à l'évolution du jour. Le libéralisme croit dans l'évolution, dans le progrès de la conscience humaine. Il est rousseauiste, il croit que l'homme est naturellement bon, il ne croit pas au péché originel, et il croit que finalement le temps fera que l'homme va évoluer vers une espèce de religion naturelle qui reprend les grands principes de la Bible finalement, hein, et qui va rejoindre au bout du compte un protestantisme libéral. Parce que le protestantisme libéral, c'est ça aussi, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi ils pensent que le protestantisme va être la religion des Français de demain, parce que l'évolution, si vous voulez, des mentalités, des idées, l'évolution de l'homme tout court, avec un grand H, le pousse vers cette religion protestante. Vous avez d'ailleurs à peu près la même pensée aujourd'hui dans l'islam. L'islam pense qu'il est la religion de demain parce que c'est la religion naturelle de l'homme, hein, et que l'évolution de l'homme, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif ou qu'il soit bouddhiste, le pousse naturellement vers l'islam. Vous allez me dire qu'on peut penser qu'ils rêvent un peu. Mais enfin, eux, c'est ce qu'ils croient. Hein, c'est ce qu'ils croient, finalement, comme le croyait le protestantisme au siècle dernier, le protestantisme libéral en particulier. En 1845, un pasteur Pujol, qui est un pasteur libéral, qui est pasteur de Poitiers, crée un journal qui s'appelle Le Commentateur évangélique et qui est un des principaux organes du protestantisme libéral. Et alors, à partir de cette période-là, la querelle entre protestants et libéraux à l'intérieur de l'Église réformée fait rage. On s'en anathémise par différents journaux, etc. Ceux qui sont mis en cause dans le commentateur évangélique sont contre-attaque, etc. Mais la querelle est surtout parisienne et méridionale, l'Ouest est peu touché. Et alors, d'un côté comme de l'autre, on se démène, on fonde des œuvres. Les libéraux ont une vision très sociale de l'Évangile, mais les orthodoxes aussi, c'est ce qu'il faut dire, n'est-ce pas ? On a souvent dit les orthodoxes prêchaient l'Évangile et puis laissaient les problèmes sociaux. C'est pas vrai. À cette époque-là, le nombre d'institutions qui ont été créées par des évangéliques est impressionnant, des écoles, etc. Il y a beaucoup d'écoles protestantes à cette période-là. Hein. D'ailleurs, l'armée du salut, la mission McHall, étaient des missions qui étaient très très évangéliques, mais en même temps très sociales, n'est-ce pas ? La révolution industrielle commence aussi à avoir alors des effets négatifs sur le protestantisme d'une manière générale, parce que la révolution industrielle entraîne un exode rural important, et le protestantisme était essentiellement rural, son implantation était rurale. Et automatiquement, là, à partir de la fin du XIXe siècle, il y a une crise que finalement les instances du protestantisme français n'ont pas su discerner, n'ont pas su anticiper et n'ont pas su contrôler. Et qui va amener un effondrement du protestantisme au milieu de notre siècle, au milieu du XXe siècle. Hein. Parce que finalement, les gens qui quittent les campagnes ne se retrouvent pas dans les paroisses citadines. Et on ferme des paroisses rurales, mais au moment où on en ferme, on n'ouvre pas de nouvelles paroisses citadines. Il se passe finalement ce que, vous savez, on dit avec un humour un peu grinçant, que les Bretons perdent la foi en posant les pieds à la gare Montparnasse, en descendant à Paris la gare Montparnasse. Bon, ben c'est un peu ce phénomène-là, si vous voulez. Finalement, la vie citadine et la vie industrielle, la révolution industrielle tue la foi. Ça, il aurait analysé ça d'une manière très très profonde, parce que justement, la foi, c'est aussi quelque chose qui naît naturellement du contact avec la nature. La révolution industrielle, en déshumanisant l'homme, le coupe aussi de son créateur. Ça demanderait des longs développements. Et ça, les instances du protestantisme n'ont pas su le discerner. Et là, je fais une petite digression. J'anticipe ce qu'on va dire demain soir dans notre réunion de communauté. Mais nous sommes à la veille du troisième choc, de la troisième révolution industrielle. avec des conséquences infiniment plus graves et plus dramatiques que celles de la première révolution industrielle que nous étudions là, eh bien justement, il faut qu'on réfléchisse et qu'on ne fasse pas l'erreur qui a été faite à ce moment-là, et puis qu'on essaye d'anticiper, qu'on essaye de voir quelles sont les conséquences que va avoir justement cette troisième révolution industrielle sur les jeunes. Bon, ça, je ferme la parenthèse, et on aura l'occasion de voir ça demain. C'est l'époque aussi où il y a une grande... comme le protestantisme croit avoir le vent en poupe, eh bien, il crée alors beaucoup d'œuvres, de nombreux hôpitaux, des orphelinats, les écoles du dimanche, à la suite donc de ce qui se fait en Angleterre. Et ce sont souvent des femmes qui se lancent dans ces activités-là, n'est-ce pas ? Il faut rendre hommage aux femmes protestantes de cette période-là qui ont eu alors un apostolat, on peut dire, extrêmement fécond, extrêmement positif à ce niveau-là, tellement que, par exemple, en 1828, le gouvernement interdira aux parents catholiques d'envoyer leurs enfants dans les écoles protestantes. C'est dire si les écoles protestantes avaient une grande influence. Et beaucoup, n'est-ce pas, le protestant va avoir un grand intérêt pour l'éducation. Bien avant Jules Ferry, non pas tant d'ailleurs pour des raisons qui ont poussé Jules Ferry à inventer l'école laïque obligatoire et républicaine, mais parce que justement, il faut qu'on ait un certain niveau d'instruction pour pouvoir au moins lire la Bible, pour pouvoir comprendre la Bible et pour pouvoir être un bon chrétien par conséquent. Après 1850, finalement, les protestants auront le droit d'accueillir aussi dans leurs écoles des catholiques. Les protestants introduisent dans leurs écoles des innovations qui sont maintenant évidentes pour tous, mais qui étaient des révolutions à cette époque-là. Par exemple, le sport. Le sport à l'école, c'est une invention protestante. Hein, aujourd'hui, ça semble tout à fait banal, mais c'était pas le cas à cette période-là. La musique dans les écoles aussi. Dans le fond, ça rejoint un petit peu ce que disait Jean Bobereau. Il y a eu une protestantisation de la société par ce moyen-là. Enfin, il faut mettre protestantisation entre parenthèses, hein, parce que le sport n'est pas une activité très protestante, et finalement la musique non plus, surtout les musiques qui sont maintenant celles qu'on entend dans un certain nombre d'écoles. Des asiles de nuit, par exemple, pour les clochards, ça va être l'œuvre de l'Armée du Salut, la mission McHall, des crèches pour les enfants abandonnés, des écoles maternelles, c'est aussi les protestants qui inventent des écoles maternelles, ça n'existe pas à cette période-là, 1844. Mais finalement, faute d'argent, les protestants sont obligés de limiter un petit peu leurs ambitions dans ces domaines-là. Alors voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire du protestantisme français pendant le 19e siècle. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?